Je vous remercie tous d'être là, bien que nettement moins nombreux que les fois précédentes. La fatigue joue, le climat peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année qui commence. Alors, je vous avais laissé en plein milieu du guet, comme d'habitude, la dernière fois, c'est-à-dire en pleine crise du Golfe, après ce qu'on a appelé la tuerie du mur des Lamentations, de l'esplanade des mosquées, plus exactement. Et donc, ça avait créé une sorte de diversion par rapport à la question principale qui était celle du Koweït. Et en particulier, l'ONU avait passé plusieurs résolutions et Israël avait refusé de céder à ces résolutions. Et nous sommes donc maintenant en décembre 1990. Le 9 décembre, Shamir est à Washington. Il prône la destruction de la machine de guerre irakienne pour l'intérêt de la paix du monde. Les entretiens se déroulent plutôt dans une bonne ambiance parce que là, il y a convergence entre les intérêts américains et les intérêts israéliens. Étant donné qu'au Congrès des États-Unis, il y a une forte opposition à la guerre, les amis d'Israël au Congrès sont plutôt évidemment favorables à la guerre du Golfe. Et donc il y a convergence d'intérêts entre l'administration Bush et le gouvernement d'Israël sur ce point. La question est toujours de savoir si l'Irak ne va pas réussir à impliquer Israël dans la guerre, et la position américaine est très ferme de ce point de vue. Il n'est pas question qu'il y ait une attaque préventive israélienne. Mais reste l'ambiguïté forte de la nature d'une réaction israélienne en cas d'une attaque irakienne. Donc, aux Nations Unies, on arrive à l'habituelle solution de compromis, qui est l'addition d'une résolution des Nations Unies et d'une déclaration du Conseil de sécurité. Alors, la déclaration du Conseil de sécurité, donc, n'a pas la force d'une résolution, est la suivante. Les membres du Conseil de sécurité réaffirment leur volonté de soutenir un processus actif de négociation auquel participeraient toutes les parties concernées et qui conduirait à une paix globale, juste et durable, mettant fin au conflit israélo-arabe par la voie des négociations fondées sur les résolutions 242 et 338 et tenant compte du droit à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien. À cet égard, il considère que la convocation au moment approprié d'une conférence internationale dotée d'une structure appropriée devrait faciliter les efforts visant à parvenir à un règlement négocié du conflit et à l'instauration d'une paix durable. Toutefois, les membres du Conseil estiment qu'il n'y a pas d'unanimité sur la question de savoir que serait le moment approprié pour convoquer une telle conférence. Donc, de ce point de vue-là, on passe par la déclaration pour relancer la question de la conférence internationale tout en évitant toute relation, linkage en anglais, entre la crise du Golfe et le conflit de Palestine. Enfin, qui est encore, comme vous le voyez ici, défini comme un conflit israélo-arabe. Quant à la résolution votée par le Conseil de sécurité, elle prend la résolution 681, elle prend en compte la déclaration, déplore les expulsions et reprend le contenu des déclarations précédentes concernant l'application des conventions de Genève. À la veille de Noël, Saddam Hussein menace dans un entretien à la presse étrangère. Tel Aviv sera le premier objectif des forces irakiennes en cas de conflit armé, même si Israël ne participe pas à une attaque contre l'Irak. Israël adresse de nouveaux avertissements à la Jordanie, la mettant en garde contre l'utilisation de son espace aérien ou terrestre par l'Irak. Alors du coup, il est temps de se consulter et le contact habituel entre le roi Hussein et les Israéliens, c'est-à-dire le Ephraim Halevi, le sous-directeur du Mossad, réactive le canal de communication secret. On se met d'accord pour une entrevue entre le roi et Shamir qui a lieu à Londres le 4 janvier 1991. Entrevue secrète, évidemment. Le roi Hussein affirme sa volonté de maintenir la neutralité de son pays. Il n'est pas question que ce territoire de la Jordanie soit transformé en champ de bataille entre Israël et l'Irak. Si on se met d'accord immédiatement sur la volonté de ne pas se faire la guerre, reste la délicate question de l'espace aérien jordanien. En cas de tir de missiles contre Israël, la seule réplique israélienne est l'usage de l'aviation qui doit survoler la Jordanie. Sur ce point, le roi Hussein est inflexible. L'aviation et la DCA jordanienne répondront immédiatement à toute intrusion. Dans la discussion, Ehud Barak, qui est en passe de devenir le chef d'état-major de l'armée israélienne, marque la hantise de son pays face à l'usage des armes chimiques. L'idée de voir de nouveau des Juifs tués par des gaz est insupportable. Si l'Irak a recours à de telles armes, la réplique serait immédiate avec la destruction d'une ville irakienne, éventuellement Bagdad, sous-entendu évidemment par des armes nucléaires. Et non moins évidemment, le roi Hussein retransmet l'avertissement aux Irakiens. Au début de janvier 1991, le compte à rebours est lancé. Il est clair qu'après avoir engagé un tel effort, les États-Unis ne se satisferont pas d'engagements plus ou moins vagues de la part de l'Irak. Seul un respect strict des résolutions de l'ONU permettrait une sortie politique. Et encore, puisque l'objectif n'est plus seulement la libération du Koweït, mais aussi la destruction de la machine de guerre irakienne, voire le renversement du régime de Saddam Hussein. Dans les territoires occupés, la situation reste violente. Le 1er janvier, jour anniversaire des premières opérations du Fatah, 4 Palestiniens sont tués par balle dans 3 incidents séparés. Le 4 janvier, le président du Conseil de sécurité adresse une déclaration au nom du Conseil, approuvé par les Américains, qui blâme le comportement d'Israël dans les territoires et reprend le contenu des résolutions précédentes concernant l'application des conventions de Genève. Pour le porte-parole des premiers ministres israéliens, ce texte est un cadeau offert à Saddam Hussein pour détourner l'attention de ce qui se passe dans le Golfe. Le 8 janvier, veille de la rencontre entre Becker et Aziz, Israël effectue le bannissement des 4 Palestiniens de Gaza. À Genève, Becker refuse tout ce qui pourrait apparaître comme une relation entre la Palestine et le Koweït. L'Irak rejette ce qui peut être considéré comme un ultimatum américain. Arafat avait délégué son ministre à Genève, son ministre des Affaires étrangères, Farouk Kaddoumi, dans l'espoir d'un accord. Le président de l'OLP reste à Bagdad jusqu'au 15 janvier, espérant vainement dans une médiation du secrétaire général de l'ONU ou dans celle des ministres des Affaires étrangères de la Communauté européenne. Jusqu'au bout, Saddam Hussein reste inébranlable. Il ne semble pas croire à la réalité des menaces de guerre. Le conflit est maintenant inévitable. L'administration Bush envoie en Israël 2 diplomates de Oran, de personnalité de Oran, Paul Wolfowitz, qui sera considéré comme l'un des têtes de file ces dernières décennies du courant des néoconservateurs pour la défense, et Larry Eagleburger pour le département d'État. Ce sont deux amis d'Israël chargés de lui expliquer que non seulement Israël ne doit pas attaquer préventivement, mais doit même s'abstenir en cas d'attaque. On informe Shamir que la guerre sera lancée au lendemain du 15 janvier et que les États-Unis se chargeront des lanceurs de missiles Scud installés dans le nord de l'Irak à portée d'Israël. Ils s'y consacreront les ressources nécessaires, quitte à divertir des moyens d'autres objectifs. Si Shamir refuse de céder, il n'obtient pas ce qui est indispensable pour lui, c'est-à-dire les codes d'authentification américains, ce qui fait qu'en cas d'opération aérienne israélienne, l'aviation américaine pourrait s'opposer aux intrus ne les identifiant pas à temps, puisqu'il faut avoir les codes des transpondeurs pour déterminer à distance qui est ami et qui est ennemi. Les Américains proposent l'arrivée de batteries de missiles Patriot qui seraient servies par du personnel conventionnel américain tant que la conformation des Israéliens à leur usage ne serait pas terminée. Shamir et Arendt refusent. Ils ne veulent pas créer le précédent de troupes étrangères servant pour la défense d'Israël. Cela dit, Ben-Gurion, en 1956, avait accepté la présence de pilotes d'avions français sous cocarde israélienne lors de la guerre de Suez. Donc, il y avait bien déjà un précédent en 1956. Donc, on arrive à Tempête du désert. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1991, Salah Khalaf, Abu Iyad, est assassiné à Tunis, ainsi que deux cadres supérieurs du Fatah par un de leurs gardes du corps. L'assassin sera livré par les Tunisiens au service du Fatah et avouera avoir agi pour le compte du groupe Abu Nidal. Les proches de la direction de l'OLP affirment qu'il a été recruté par le Mossad au milieu des années 1980 pour infiltrer le groupe Abu Nidal. On retombe là sur la fameuse question de la collusion supposée entre les services israéliens et Abu Nidal. L'affaire reste mystérieuse, en particulier en ce qui concerne le commanditaire. Salah Khalaf avait été connu pour ses réticences envers l'alignement de l'OLP en faveur de l'Irak, sur l'Irak, et durant les années précédentes, avait mené une guerre sans merci contre le groupe Abu Nidal, en particulier dans son implantation libanaise. Abu Iyad accusait publiquement ce mercenaire d'être au service des Israéliens. Les responsables du Fatah mettent en cause publiquement Israël tout en s'interrogeant sur une éventuelle implication irakienne ou libyenne. De fait, durant toute cette période, Abu Nidal est en Libye, et de peur de se voir accusé de collusion avec le terrorisme, les autorités locales lui ont interdit toute activité extérieure, l'assassinat de Salah Khalaf étant la seule exception. Par ailleurs, les Libyens trouvaient qu'Abu Iyad avait été trop proche de l'opposition libyenne. Les trois pistes, la libyenne, l'irakienne ou l'israélienne, restent des hypothèses fondées avant tout sur des raisonnements et non sur des preuves directes. La disparition de ce chef historique du Fatah accroît l'autorité d'Arafat sur le mouvement, Salah Khalaf étant l'un des derniers capables de modifier les positions du chef de l'OLP. Arafat quitte immédiatement Bagdad pour Tunis et ordonne la dispersion des responsables de l'OLP de peur d'une attaque israélienne dans le contexte de la guerre à venir. Alors, ces images vous rappellent peut-être quelque chose. C'est ce que nous avons eu le 16 janvier sur nos téléviseurs, les premières images CNN de Bagdad, puisque un délai de grâce d'une journée avait été accordé le 15 janvier pour permettre le départ des légations étrangères d'Irak et endormir la vigilance irakienne. La phase aérienne de l'opération Tempête du désert commence dans la nuit du 16 au 17 janvier. L'aviation américaine pilonne le dispositif militaire irakien ainsi qu'une grande partie de l'infrastructure civile du pays. Les dégâts sont considérables. Le monde entier suit les opérations pratiquement en temps réel grâce à la chaîne d'information CNN, dont le bureau de Bagdad continue de fonctionner et qui fournit des images essentielles pour le réseau mondial d'information. Dans son premier message, Saddam Hussein élargit le conflit à l'ensemble de la région. Je cite. Avec le début de la confrontation, le jour du salut se rapproche, celui où les trônes traites tombereaux, quand la volonté du Satan de la Maison-Blanche et des criminels de Tel Aviv sera brisée, la Palestine, le Liban et le Golan seront libérés, les Arabes seront libres sur leurs terres. Fin de citation. L'armée israélienne est mise en état d'alerte. La population est priée de rester chez elle et de se tenir prête à porter les masques à gaz, à l'exception des personnes engagées dans les secteurs essentiels de l'économie. Les territoires occupés sont mis sous une très stricte couvre-feu afin de prévenir les troubles. Sous prétexte que Gaza est hors de portée des missiles irakiens et que la Cisjordanie est composée de régions rurales peu susceptibles d'être frappées, aucun équipement n'a été fourni à la population arabe. Le même régime a été appliqué à la population rurale israélienne et aux colons, mais le gouvernement a dû céder devant leurs protestations. La Cour suprême israélienne a ordonné que la population de Cisjordanie bénéficie du même traitement, mais le ministère de la Défense, faute d'équipement disponible, a refusé d'obtempérer. À 2 h du matin, le 18 janvier, 4 missiles Scud irakiens frappent les zones urbaines de Tel Aviv et d'Haïfa. Immédiatement, à Reims, demande aux Américains d'établir une coordination opérationnelle avec le Central Command pour permettre la contre-attaque israélienne. Les Américains tergiversent. Ils refusent de fournir des informations satellitaires et aériennes permettant de définir les objectifs. Le matin du 19 janvier, 4 nouveaux Scud tombent sur Tel Aviv. Là, vous avez un missile Scud. Oui, c'est un missile quand même assez rudimentaire. Ce qui fait la force du Scud est sa mise à feu, qui ne demande que quelques minutes et du fait que les lanceurs soient des lanceurs mobiles. Il est donc très difficile de repérer les sites de lancement qui, de surcroît, changent tout le temps. Le temps d'attente est de 7 minutes entre le lancement et l'arrivée sur Israël. Il faut 3 minutes pour transférer en Israël le repérage d'un lancement par un satellite américain, ce qui donne un temps d'avertissement de 4 minutes en Israël. Bush s'est adressé plusieurs fois par téléphone à Shamir pour l'adjurer de ne rien entreprendre. Il faut laisser faire l'aviation américaine et éviter tout ce qui pourrait apparaître comme un élargissement du conflit qui ne pourrait que bénéficier à Saddam Hussein. Egelberger et Wolfowitz sont renvoyés en Israël, qui cette fois acceptent l'offre des batteries de patriotes avec leurs servants américains. Elles arrivent immédiatement par un pont aérien, le plus important après celui d'octobre 1973. En termes concrets, les dégâts des Scud sont limités. Selon l'expression de François Mitterrand à George Bush, ces attaques sont plus symboliques que réelles. C'est ce que pensent les responsables militaires américains sur le terrain, qui doivent consacrer des moyens supplémentaires à la recherche des lanceurs, ce qui pour eux constitue une diversion par rapport aux missions essentielles de la coalition. De surcroît, les conditions météorologiques sont difficiles et ne permettent pas de déterminer l'efficacité des bombardements en cours. D'ailleurs, ces mêmes conditions permettent au gouvernement israélien de trouver une raison valable pour ne pas intervenir. Pour la population israélienne, l'angoisse psychologique est d'autant plus forte que l'instruction a été donnée de porter des masques à gaz durant la durée des alertes. On reproche à la population palestinienne de Cisjordanie, soumise à un couvre-feu drastique, d'applaudir de ses balcons aux tirs de Scud. Elle est pourtant tout aussi exposée et ne dispose pas de masque. À l'appel de l'UNRWA, la communauté européenne octroie une aide alimentaire d'urgence à la population des territoires privé de tout moyen de subsistance par le couvre-feu. Pourtant, une telle mission devrait, selon le droit international, revenir à la puissance occupante. Outre l'angoisse des tirs de Scud, les Palestiniens des territoires occupés ont peur que les Israéliens profitent de la situation pour procéder à une expulsion massive ou à divers actes de violence rendus possibles par l'interdiction faite à la presse internationale de se rendre dans les territoires. Comme la Shoah pour les Israéliens, le spectre de la Nakba hante les Palestiniens à chaque phase de la guerre régionale. On aura le même phénomène en 2003. Les médias arabes contrôlés par leur gouvernement se contentent d'informations factuelles, mais l'Égypte et la Syrie ont fait savoir qu'elles ne toléreraient pas une attaque israélienne contre la Jordanie. Dans ce dernier pays, l'opinion publique est partagée entre la joie que provoquent les tirs irakiens et la peur que le conflit se propage sur le sol jordanien. Dans les derniers jours de janvier, les tirs de Scud reprennent sur Israël. L'armée israélienne dispose maintenant d'un plan complet comprenant attaque aérienne et l'envoi de forces sur leur terrain. Arendt est un partisan actif de l'opération, mais Shamir est moins convaincu. L'obstacle essentiel demeure que l'opération israélienne suppose que le secteur concerné soit laissé totalement à la disposition des Israéliens, ce que les Américains refusent absolument. L'envoi des missiles Patriot a une signification plus politique que militaire, puisque leur efficacité est loin d'être prouvée. Le problème, c'est que les Scuds sont tellement rudimentaires que souvent ils se désagrègent en retombant sur l'atmosphère, et de ce fait, les Patriotes n'interceptent que des débris de missiles Scud et non pas des missiles opérationnels. En tout cas, on ne peut pas savoir si le Scud s'est désagrégé ou s'il a été intercepté par le missile, l'antimissile américain. Shamir élargit sa majorité en faisant entrer au gouvernement le député nationaliste radical, l'ancien général Rehavam Zevi, partisan public de l'expulsion des Arabes d'Israël et des territoires occupés. Une fraction du Likoud proteste contre cette décision. Moshe Arendt s'envisage de démissionner, mais renonce du fait de la gravité de la situation. Au Liban Sud, les Palestiniens ouvrent un mini-front en lançant des tirs de roquettes sur la zone de sécurité et le nord d'Israël. Il s'ensuit des échanges de tirs avec les Israéliens et des menaces de terre brûlée de la part d'Israël et de son allié de l'ALS. Les raids aériens israéliens infligent de lourdes pertes aux combattants palestiniens, mais aussi à la population civile. Le gouvernement libanais ne dispose pas de moyens militaires suffisants pour intervenir, et Israël interdit toute entrée de l'armée syrienne dans cette région au nom du respect des lignes rouges. Tout en cherchant à éviter la confrontation avec les Palestiniens et les Israéliens, un contingent de l'armée libanaise prend position dans la région de Nabatieh, déjà contrôlée par Hamal. Menacé à la fois par Hamal et par l'armée libanaise et ne disposant pas du soutien du Hezbollah, le Fatah doit s'incliner, non sans déchirement intérieur. Bien évidemment, c'est Damas qui a orchestré l'ensemble de la manœuvre. Plus le fait qu'il faut bien comprendre que l'Iran n'est pas mécontent nécessairement de l'attaque américaine sur l'Irak. Et donc, l'Iran a demandé au Hezbollah de ne pas agir contre Israël au Liban Sud durant la période de la guerre. Dans son discours à la Knesset du 4 février 1991, Shamir rejette toute perspective de conférence internationale, projet soutenu par les criminels que sont Yasser Arafat et Saddam Hussein. Mais dans une conférence de presse le surlendemain, Becker commence à ébaucher les traits du prochain après-guerre. Établissement de mesures de confiance entre les États de la région afin de limiter la course aux armements, coopération économique et reprise du processus de paix allant non seulement à la suppression de la menace de guerre, mais à une vraie réconciliation entre Israéliens, Arabes et Palestiniens. Toujours le 6 février, le roi Hussein exprime publiquement sa frustration. Il dénonce la guerre féroce et injuste qui ne vise pas seulement l'Irak, mais l'ensemble des Arabes et des musulmans. Il accuse les États-Unis de vouloir une réorganisation politique de la région encore plus dangereuse pour l'avenir de la nation arabe que n'a été l'accord Sykes-Picot. Le monarque n'a pas tenu compte des objections de ses conseillers et a exprimé la réalité de ses sentiments en accusant les membres arabes de la coalition de crimes contre la nation et la religion. Cette fois, la rupture avec Washington est nette. Dans un entretien téléphonique avec le roi Fahd le 28 février, Bush va jusqu'à envisager un remplacement du roi Hussein par un modéré et raisonnable. En tout cas, il n'est pas question de le réhabiliter prématurément. Je vous signale pour votre curiosité que sur le site de la bibliothèque présidentielle George Bush, vous avez in extenso toutes les communications téléphoniques et tous les entretiens de George Bush avec des responsables étrangers durant la durée de sa présidence. Bon, un certain nombre sont en partie censurés, mais ce qui est donné quand même très large, en particulier sur la période de la guerre du Golfe, vous avez des entretiens entre Bush et Mitterrand, par exemple, qui sont tout à fait détaillés, et c'est des plus intéressants. Ça s'appelle « memcom » en anglais, « des telcom ». « Memcom », c'est pour les comptes rendus écrits, et « telcom », c'est les comptes rendus des conversations téléphoniques. C'est pour ça que je peux vous dire « Bush a dit que », etc., et ainsi de suite. Le 14 février, Hafez al-Assad rappelle les positions de son pays. Une paix juste et globale fondée sur un retrait israélien total des territoires arabes occupés et sur la garantie des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien. Si le ton paraît nouveau, la position de fond est toujours la même. Tout en considérant que le Golan fait maintenant partie du territoire israélien, le porte-parole du gouvernement israélien déclare qu'Israël est prêt à des négociations directes et sans condition. Cela suffit pour inquiéter les colons du Golan, Shamir les rassure immédiatement. Toutes les informations sur une éventuelle démilitarisation du plateau du Golan dans le cadre d'un traité de paix étaient sans fondement. De visite à Washington le 11 février, Arens tente encore d'obtenir la licence d'envoyer l'aviation israélienne attaquer l'Irak, mais l'administration Bush reste inébranlable. La retenue israélienne profite plus à l'État hébreu que l'action armée. Il n'est pas question d'établir une coordination militaire entre Israël et le CENTCOM. Le ministre de la Défense israélien est toujours persuadé de la nécessité d'une opération aérienne. Il demande à ses généraux de préparer une mise à l'épreuve des réactions de la Jordanie en cas de violation de son espace aérien. Ces derniers sont réticents et tardent à proposer un plan d'action. Visiblement, Shamir est plus sensible aux arguments américains que Arens. Le refus américain de fournir les codes d'authentification de la coalition permettant de départager entre amis et ennemis reste l'obstacle essentiel à une entreprise israélienne. Le risque est trop grand de voir les aviations israéliennes et américaines se combattre par erreur. Le premier ministre israélien voit aussi l'intérêt de faire des Américains ses débiteurs, alors que ses relations avec l'administration Bush sont notoirement exécrables. Arens a aussi d'autres divergences avec Shamir. Il considère que la bande de Gaza n'a pas d'importance stratégique majeure pour Israël, contrairement à la Cisjordanie et au Golan. Israël doit être prêt à évacuer ce territoire, quitte à devoir faire face à des actions de terrorisme. Il pense que c'est préférable au fardeau que représente l'occupation de la bande de Gaza, qui risque de remettre en cause celle des autres territoires. Shamir reste inflexible sur ce sujet, affirmant que Gaza fait partie de la terre d'Israël. Si Arens ne soumet pas la question au gouvernement, il assouplit le couvre-feu dans la bande de Gaza et envisage des mesures favorables à un gouvernement local qui diminuerait la charge de l'occupation. Et on passe maintenant à l'offensive terrestre. Durant toute la phase de l'offensive aérienne, les 700 000 hommes de la coalition prennent leur position définitive, permettant de développer un vaste mouvement tournant destiné à encercler et à détruire l'armée irakienne, soumise depuis plus d'un mois à un implacable pilonnage. Le 24 février, l'offensive terrestre commence. Tout le dispositif irakien s'effondre. Les Irakiens qui tentent de s'enfuir de Koweït sont soumis à un impitoyable déluge de feu dans ce qu'on a pu appeler l'autoroute de la mort. En une centaine d'heures de combat et au prix seulement de 148 militaires américains et 99 alliés tués, le régime de Saddam Hussein obtient un cessez-le-feu fondé sur l'acceptation inconditionnelle des différentes résolutions de l'ONU. Arendt, qui a enfin obtenu l'autorisation de tester le comportement de la Jordanie, est pris de court par la fin des combats qui lui interdit toute intervention aérienne. Les stratèges tirent la conclusion, confirmée depuis par la lecture des archives irakiennes capturées après 2003, que la dissuasion israélienne n'a qu'en partie fonctionné. L'Irak et Israël se sont dissuadés d'utiliser des armes de destruction massive, mais cela a permis à Saddam Hussein de s'en tenir à l'usage de l'armement classique. Le bilan définitif des tirs de Scud sur Israël est de 2 civils tués et 230 blessés, en très grande partie légèrement. Il faut ajouter plusieurs décès par crise cardiaque provoqués par le stress des alertes successives. Les dommages matériels sont relativement importants. Tempête du désert, c'est la victoire d'une armée de soldats professionnels disposant d'une écrasante marge de supériorité en technologie, puissance de feu et logistique. La doctrine militaire a été celle préparée par l'OTAN pour faire face à l'armée rouge. Si la gestion diplomatique et militaire a été un succès éclatant, celle de l'immédiate après-guerre est douteuse. La victoire militaire a été trop rapide, ne permettant pas à Saddam Hussein d'engager la totalité de la garde républicaine, ses unités d'élite. Une partie importante de l'armée irakienne a été ainsi préservée. La coalition a été formée pour libérer le Koweït et non pour occuper l'Irak. L'administration Bush est consciente du danger que constituerait l'occupation du pays avec un risque d'enlisement durable. Elle est d'ailleurs persuadée que Saddam Hussein perdrait le pouvoir suite à un coup d'État militaire, mais pour le dictateur, sa survie politique constitue déjà une victoire. Alors que la coalition retire ses troupes, les soulèvements kurdes et chiites sont réprimés dans le sang. Les Occidentaux sont contraints d'imposer des zones de non-survol aérien par l'aviation irakienne, ce qui implique le maintien d'une présence militaire dans le Golfe, en particulier en Arabie Saoudite. Le non-règlement de la question irakienne ouvre un second abcès de fixation au Moyen-Orient après celui de la Palestine. Il est incontestable que dans de nombreux pays arabes, Saddam Hussein a connu une très forte popularité du fait de son attitude anti-impérialiste. Même s'il a adopté un vocabulaire religieux, son anti-impérialisme reste celui du nationalisme arabe qui a connu avec lui son ultime résurgence. Les régimes arabes qui ont soutenu la coalition peuvent se vanter d'avoir participé au camp des vainqueurs, mais ils ont largement perdu de leur légitimité. À moyen terme, la lutte anti-impérialiste passera largement aux mains du djihad international qui lui aussi est sorti vainqueur, c'est lui, de la guerre d'Afghanistan. La population palestinienne du Koweït était estimée à environ 400 000 personnes à la veille de la guerre, ce qui correspondrait à 18,7% de la population totale de l'Émirat et à comparer avec les 600 000 nationaux koweïtiens. Il joue un rôle essentiel dans la vie économique tout en ayant, à part quelques rares naturalisés, le statut de travailleur immigré. Depuis la fin des années 1970, le gouvernement mène une politique de koweïtisation des emplois et multiplie les mesures discriminatoires envers les Palestiniens qui, eux, ont le sentiment, comme dans les autres pays du Golfe, d'avoir bâti le pays puisque ce sont eux qui ont été à la base de l'industrie, enfin de la mise en place des infrastructures des pays du Golfe après 1949 en tant que main-d'œuvre. Bien évidemment. Comme pour les citoyens koweïtiens, une bonne part d'entre eux étaient en vacances lors de l'invasion irakienne. D'autres ont pu quitter le pays lors de l'occupation. Il devait en rester environ 180 000 lors de la libération de l'Émirat. Les koweïtiens les accusent d'avoir collaboré avec les Irakiens du fait de l'attitude de Yasser Arafat et de l'OLP. Ils sont surtout punis pour avoir continué d'exercer leur profession lors de l'occupation et de s'être pliés aux instructions irakiennes. À dire vrai, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils sont aussi victimes de la confusion créée par le rôle joué par des miliciens palestiniens d'Irak, embrigadés par le régime de Saddam Hussein, en particulier celui du FLP d'Abu el-Abbas. Néanmoins, le simple fait que 5000 Palestiniens aient été arrêtés par les occupants montre que dans leur grande masse, les Palestiniens n'ont pas vraiment collaboré. La libération du Koweït est accompagnée d'un véritable nettoyage ethnique de la cinquième colonne représentée par les Palestiniens, les Soudanais et les Yéménites. Elle est le fait de milices et de résistants de la dernière heure encouragés par les autorités de l'Émirat. Il y aurait eu un très grand nombre de cas d'assassinats, tortures, viols et disparitions. Certaines sources parlent de 4000 morts et disparus, le tout se passant devant la différence des troupes américaines et de la presse occidentale, en dehors de quelques informations factuelles, ce qui contraste avec les indignations justifiées devant les nombreuses atrocités commises par les Irakiens. Les protestations d'Arafat, de l'OLP et des grandes organisations humanitaires restent vaines. L'essentiel des ouvrages américains sur la Seconde Guerre du Golfe, pour eux la première, passe sous silence cette affaire. En quelques mois, le nombre de Palestiniens est réduit à environ 30 000 personnes, ce qui correspond à la volonté de se débarrasser d'une communauté jugée comme dangereuse avant même l'invasion irakienne. La Jordanie est le premier pays à accueillir des nouveaux réfugiés palestiniens, environ 300 000. Les autres ont été redistribués dans les territoires occupés, les pays du Golfe et les pays industrialisés. Durant les années 1990, il y aura ensuite une régularisation des expulsions, le Koweït débloquant les comptes bancaires et payant des retraites et des indemnités de licenciement à ceux qui en avaient droit. Il en reste jusqu'à aujourd'hui une profonde amertume réciproque entre Koweïtiens et Palestiniens. Les premiers demandant des excuses formelles pour l'attitude de l'OLP, les seconds marquant leur innocence et rappelant les crimes commis après la libération du pays. Et nous abordons maintenant un nouveau chapitre qui est consacré comme thème central à la conférence internationale de Madrid. Donc ce chapitre s'appelle Madrid et couvrira, ce sera d'ailleurs le dernier de cette année, la période 1991-1992. Avant de commencer le chapitre, comme d'habitude, je fais deux longues citations qui donnent un peu la tonalité. La première est celle du chef de la délégation palestinienne à la conférence de Madrid, Haïdar Abdelchafi. C'est une citation du temps du 27 février 1992. Je cite « Il est utile de commencer par rappeler les raisons de notre présence à la conférence de paix de Madrid, car une minorité forte de quelques groupes palestiniens s'oppose à notre participation au processus de paix. Lorsque nous avons répondu à l'invitation, les Palestiniens étaient confrontés depuis quelque temps à une question grave. Que faire après la guerre du Golfe? Comment remonter la pente alors que de nombreux espoirs fondés sur l'intifada avaient été frappés et que notre cause semblait encore une fois sortir des sphères de l'urgence pour gagner le territoire de l'oubli? Les conséquences de la guerre du Golfe étaient bien entendues pour beaucoup dans l'apparition de ces données négatives. Il fallait venir à bout de ces difficultés. Et nous pouvions y parvenir en partie en participant au processus de paix. D'autant que nous n'y remettions pas en question tout ce que nous accomplissions par ailleurs pour faire avancer notre cause. Il faut dire enfin que la quasi-totalité des nations de la Terre nous pressait de répondre positivement et que les États arabes de la région, quant à eux, ne nous avaient pas attendus pour exprimer leur adhésion. Nous sommes donc allés à Madrid avec le désir d'en faire une manifestation utile, au niveau de notre image notamment, et nous avons effectivement réussi à ramener la question palestinienne au centre des préoccupations arabes et internationales. La seconde citation est d'Eliakim Rubinstein, le chef de la délégation israélienne pour parler avec les Palestiniens, le 13 janvier 1992, je cite, « Vous vous êtes donné l'appellation de délégation palestinienne. Vous connaissez ma position sur ce sujet. Pour moi, il n'y a qu'une délégation conjointe jordano-palestinienne. Mais je voudrais répondre à vos commentaires. Vous avez dit que le conflit résultait de la violation des droits du peuple palestinien. Ce n'est pas ainsi que nous lisons l'histoire. Le mouvement sioniste est le prolongement d'une longue histoire qui date de plusieurs milliers d'années. Et quand il a commencé son action pour retourner au pays, il ne l'a pas fait pour violer les droits de qui que ce soit. Vous avez parlé du peuple palestinien. Ce n'est pas ainsi que nous l'appelons. Nous n'avons pas de raison d'être hostiles à l'égard de vos sentiments, mais historiquement, la présence du peuple palestinien n'est pas évidente. L'indépendance ethnique ne doit pas nécessairement mener à une indépendance politique. Nous avons besoin de temps pour que les plaies se cicatrisent. Il faut une étape transitoire. Je pense qu'il y a une possibilité de réussite. Dans votre lettre, vous parlez des conventions de Genève, des droits de l'homme. Nous exposerons notre attitude en détail ultérieurement, mais je dois vous dire que pour nous, les conventions de Genève ne s'appliquent pas au territoire en question puisqu'ils ne sont pas occupés et qu'avant nous, il n'y avait pas d'autorité souveraine. Malgré cela, nous avons annoncé que nous allions appliquer les clauses humanitaires de ces conventions et nous le faisons. Donc, vous voyez, un peu le dialogue de sourds qui sera celui de Madrid, mais qui renvoie à l'interprétation de fond de la question de Palestine. Donc, les Palestiniens et les Jordaniens apparaissent comme faisant partie des grands vaincus de la Seconde Guerre du Golfe, mais ils n'ont pas cessé d'exister. Ils sont simplement plus faibles politiquement. C'est en particulier le cas de Yasser Arafat et du roi Hussein. En dépit des déboires de l'après-guerre du Golfe, les États-Unis paraissent maître du jeu. L'administration Bush a pour elle une immense victoire militaire, de surcroît financée par les autres, les pays du Golfe et accessoirement l'Allemagne et le Japon, qui n'ont pas pu statutairement participer à la coalition. Durant la crise, le 11 septembre 1990, le président Bush avait appelé à l'émergence d'un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération multilatérale sous direction américaine. La paix au Moyen-Orient s'inscrit dans cette perspective. Dans différentes déclarations au début du mois de mars, Bush a marqué qu'il n'y a pas de substitut à la diplomatie, que la paix globale doit être fondée sur les résolutions 242 et 338 et sur le principe de territoire contre la paix. Ce principe doit procurer à Israël sécurité et reconnaissance et aux Palestiniens leurs droits politiques légitimes. Rien d'autre ne peut passer l'épreuve double de la sécurité et de la justice. Il est temps de mettre fin au conflit israélo-arabe. L'OLP Arafat, toujours selon Bush, ont misé sur le mauvais cheval et ont un comportement décevant. Arafat n'est plus considéré aux États-Unis. Les gens de l'OLP n'ont pas condamné l'agression. Cela a porté tort aux Palestiniens du Koweït, dont une partie a soutenu les envahisseurs. Cela n'a pas contribué à améliorer leur image aux États-Unis. Il faut résoudre la question palestinienne dans le cadre des Nations Unies. Les États-Unis ne sont pas favorables à la création d'un État palestinien. Voilà donc à peu près la somme des déclarations de George Bush au mois de mars. Baker et ses conseillers ont mis au point une nouvelle stratégie dite des deux voies ou de la double approche. Israël ne peut pas négocier avec les Palestiniens sans avoir la possibilité d'obtenir une paix plus large avec les États arabes. Les États arabes ne peuvent pas négocier avec Israël sans que ce dernier ne négocie avec les Palestiniens. L'idée est de créer une dynamique conciliant à la fois la revendication arabe d'une conférence internationale et celle d'Israël d'une négociation directe. Au ministère israélien des Affaires étrangères, dirigé par David Levy, on est favorable à cette double approche, mais le pouvoir de décision définitif appartient à Shamir. Dans ce sens, les Arabes peuvent contribuer à l'émergence de dirigeants palestiniens crédibles dans les territoires comme partie à la négociation, envisager la mise en place des mesures de confiance en matière de sécurité, assouplir les mesures de boycott préliminaire et secondaire d'Israël et mettre fin aux campagnes anti-israéliennes dans les instances internationales et se déclarer en faveur d'une pleine normalisation avec Israël une fois la paix conclue. De leur côté, Israël peut rétablir des conditions normales de vie dans les territoires occupés et assouplir les mesures de répression, se déclarer prêt à se retirer du Liban Sud après une période de calme de 6 à 12 mois et s'engager à négocier sur les principes de la résolution 242 et aboutir à un statut permanent pour la Cisjordanie et Gaza fondé sur la confédération avec la Jordanie. ce qui veut dire que l'autonomie n'est pas la solution définitive. Il ne semble pas qu'un gel de la colonisation soit envisagé. Comme dans tous les projets américains de processus de paix, toute l'intelligence est consacrée sur les questions certes importantes de forme et de procédure, et non sur celles de résultat final, qui devraient implicitement comprendre des gains territoriaux pour Israël par rapport à juin 1967. Le 8 mars 1991, Becker est en Arabie Saoudite pour présenter son projet. Il est reçu par le roi Fahd, Bandar Ben Sultan étant l'interprète. Becker affirme que son pays est prêt à mettre autant d'énergie à obtenir une paix israélo-arabe qu'à battre Saddam Hussein. Le roi est en situation d'obliger envers les États-Unis et acquiesce aux positions américaines. Si les Palestiniens obtiennent une patrie, l'Arabie saoudite est prête à établir des relations économiques et diplomatiques complètes avec Israël. Le 10 mars, le secrétaire d'État s'adresse à Riyad au ministre des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, auxquels se sont ajoutés les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et de la Syrie. Là encore, il obtient un soutien enthousiaste à ses idées. En Égypte, Moubarak exprime le même encouragement tout en exprimant des doutes sur l'attitude de Shamir. Le moment de vérité est l'entretien avec les responsables israéliens. Le secrétaire d'État américain a été précédé par une troïka de trois ministres des Affaires étrangères représentant la communauté européenne. Ils sont sur la même disposition que le président Bush, territoire contre la paix, discrédit d'Arafat. Ils offrent une aide financière à Israël et aux Palestiniens. L'Europe prendrait directement en charge l'aide aux Palestiniens. C'est un rejet ferme de la part des Israéliens. Il n'est pas question de diminuer en quoi que ce soit les moyens de contrôle sur la population palestinienne. L'OLP a autorisé un groupe de représentants des territoires occupés mené par Faisal al-Husseini à rencontrer la délégation européenne. Le 10 mars, un Palestinien de 26 ans a poignardé à mort quatre Israéliens à Jérusalem. Arrêté, il a affirmé aux enquêteurs qu'il voulait par cet acte adresser un message au secrétaire d'État américain. Le lendemain, jour de l'arrivée de Becker à Jérusalem, un commando de 6 hommes venus de Jordanie est intercepté par l'armée israélienne. Ils sont tués et on trouve sur leurs cadavres des Corans portant l'inscription Hamas. Le même jour, un Israélien est agressé au couteau au Cisjordanie. Le secrétaire d'État rencontre différentes personnalités gouvernementales israéliennes ainsi que les responsables de l'opposition travailliste. L'atmosphère semble plutôt bonne. Arendt plaide pour une limitation générale des ventes d'armes au Moyen-Orient, à l'exception d'Israël, bien évidemment. C'est une fin de non-recevoir. Si les États-Unis ne vendent pas d'armement aux pays du Golfe, les Européens le feraient. Et en fait, la Grande-Bretagne vient de conclure de très importants contrats dans ce domaine avec l'Arabie saoudite. L'entretien avec Shamir porte sur les mesures d'établissement de confiance. Il est plus prompt à prendre qu'à donner, mais semble accepter l'image d'un règlement définitif comprenant non pas une autonomie, mais un libre gouvernement, self-government des Palestiniens. Oui. Self-government est le type même d'expression anglaise intraduisible en français. À l'époque de la Société des Nations, on traduisait self-government par libre gouvernement. Aujourd'hui, on traduit bêtement par autogouvernement, ce qui est assez barbare. Mais donc, en fait, la notion elle-même en français ne passe pas. En ce qui concerne le Golan, Becker émet l'idée d'un stationnement de troupes américaines dans le cadre d'un règlement final. Autorisé par l'OLP à Tunis, une délégation de personnalités palestiniennes est reçue au consulat général des États-Unis à Jérusalem. Elle est menée par Faisal al-Husseini et par un professeur de littérature anglaise à l'université de Beer Zeit, Hanan al-Ashrawi. Ces deux personnalités vont devenir les principaux interlocuteurs palestiniens de Becker. Le secrétaire d'État les somme de former une délégation indépendante de l'OLP et prête à négocier avec Israël. Il s'ensuit une longue discussion agitée sur la représentativité de l'OLP qu'il ait choisi ou non le mauvais cheval et sur les torts imputables à l'occupation israélienne. Peut-on aussi négocier alors qu'Israël procède à nouvelles implantations? Becker se fait menaçant. L'offre américaine est la seule opportunité offerte aux Palestiniens, c'est à prendre ou à laisser. L'entrevue du 13 mars entre Becker et Hafez el-Assad se passe dans une excellente atmosphère. Le Syrien se déclare partisan de l'approche des deux voies, mais prend ses distances par rapport aux mesures d'établissement de la confiance. Le secrétaire d'État en tire la conclusion que la Syrie est sérieuse en ce qui concerne sa participation au processus de paix, mais que la négociation sera difficile. De façon plus générale, il faut des concessions arabes concrètes pour persuader Shamir d'entrer dans la négociation et qu'il sera difficile de trancher le nœud gordien de la représentation palestinienne et que la participation de la Syrie sera décisive. Becker reçoit à Damas le ministre libanais des Affaires étrangères et montre clairement qu'il accepte que le Liban soit une partie subordonnée à la Syrie. La question du retrait israélien sera étudiée quand la sécurité sera rétablie dans le reste du pays. Quant à la Jordanie, elle est ostensiblement négligée. Le roi Hussein, en dépit de ses offres de service, est encore au purgatoire de la diplomatie américaine. Si les grands principes semblent acceptés par les parties, Israël voyant dans la double approche la demande de normalisation des rapports avec les pays arabes contenus dans le plan Shamir, les difficultés commencent quand on vient aux questions pratiques, ce qui est traité au niveau des adjoints des ministres des Affaires étrangères. Le gouvernement israélien n'accepte une conférence internationale sous patronage américano-soviétique qu'à condition que l'Union soviétique rétablisse d'abord les relations diplomatiques avec l'État hébreu et que la conférence n'ait aucun pouvoir de décision, n'étant qu'un paravent pour des négociations directes. Elle ne doit se réunir qu'une seule fois. La seconde condition est qu'il y ait une rupture nette entre la représentation palestinienne et l'OLP et qu'elle fasse exclusivement partie de la délégation jordanienne. En ce qui concerne la résolution 242, Shamir insiste sur la nécessité d'ajouter comme telle qu'elle a été acceptée à Camp David. La réponse américaine est claire sur ce dernier point. Israël est libre de présenter son interprétation de la résolution 242 comme les autres parties, mais il n'est pas question d'en modifier la lettre. Enfin, dans des déclarations publiques, Shamir et Arens marquent que le Golan fait partie du territoire israélien et qu'il n'est pas question de le rétrocéder. La presse israélienne argumente que l'usage de missiles balistiques à longue portée fait disparaître la justification sécuritaire de l'occupation des territoires arabes. Arafat et le roi Hussein étant pour l'instant tenus à l'écart, Assad est le seul du côté arabe à participer au processus. Lui aussi énumère ses conditions. La conférence internationale doit se tenir sous l'égide des Nations Unies et siéger en permanence. Par ailleurs, l'Europe exige de participer à la conférence, contrairement à l'Arabie Saoudite, qui n'a pas de contentieux territorial à régler avec Israël. On commence à revenir au traditionnel dialogue de sourds alors que la guerre des couteaux a repris en Israël et dans les territoires occupés. À la fin mars, on en est à 6 tués et 10 blessés israéliens depuis la fin de la guerre du Golfe. Il s'ensuit des mesures de filtrage drastiques des travailleurs palestiniens en Israël, mais on se refuse à interdire la migration de travail. Outre l'aspect économique, ce serait admettre une séparation entre Israël et les territoires occupés. Sharon appelle à des mesures encore plus sévères, mais Arendt s'en tient à une ligne d'action pragmatique. Il envisage même de procéder à des élections municipales qui permettraient de faire émerger une représentation concurrente de celle de l'OLP. Devant le risque d'enlisement doublé par l'intensification de la colonisation des territoires occupés sous l'impulsion de Shamir, Becker se résigne à faire ce qu'il avait toujours voulu éviter jusque-là, la diplomatie de la navette. Il prend ainsi par surprise Shamir qui voulait multiplier les mesures dilatoires. Le secrétaire d'État arrive le 9 avril en Israël. Cette fois, il marque son opposition franche à la politique de colonisation. On lui répond qu'on s'était seulement engagé à ne pas installer des migrants soviétiques dans les implantations. Avec Arendt, c'est un dialogue de sourds sur les mesures d'établissement de la confiance dans les territoires occupés. Israël relâchera la pression sur la population quand la violence aura cessé. Becker compare la politique israélienne à celle de Saddam Hussein avec les Kurdes d'Irak. Shamir accepte clairement le patronage américano-soviétique avec un observateur européen et le principe d'une délégation jordano-palestinienne, mais reste ferme un moment sur la question de la résolution 242 avant de céder sur la référence sur Camp David. Il fait des concessions purement verbales en ce qui concerne la colonisation, renvoyant la responsabilité sur Sharon. Becker a fait une concession essentielle en abandonnant le point discuté les deux années précédentes. La délégation palestinienne ne comprendra que des personnes résidant dans les territoires. Il n'est plus question de double adresse à Jérusalem et dans les territoires, ou de personnalités bannies de Jérusalem et résidant à l'extérieur. La rencontre avec les personnalités palestiniennes est relativement plus encourageante. Certes, les intéressés s'en tiennent toujours au mandat de l'ONP et se montrent hostiles à une autonomie de 3 ans, avant une négociation finale sur la base des résolutions 242 et 338, mais ils acceptent le principe de la négociation de la paix avec Israël, affrontant ainsi l'hostilité de la gauche palestinienne et du Hamas. Becker marque clairement que c'est à prendre ou à laisser, qu'il n'y aura pas de meilleure offre. Becker se rend ensuite au Caire, qui se montre prêt à abriter la conférence, puis à Damas le 11 avril, pour une nouvelle séance marathon avec Assad. Le premier sujet abordé est le nom de la conférence. Pour les Israéliens, il s'agit d'une conférence régionale. Pour les Syriens, une conférence internationale. Assad propose la transaction de conférence de la paix. La discussion est plus longue en ce qui concerne le rôle des Nations Unies et chacun reste sur ses positions. Le 12 avril, Becker rencontre à Genève, terrain neutre, le ministre jordanien des Affaires étrangères. Après tout, il faut bien que la Jordanie accepte la conférence et la formation de la délégation jordano-palestinienne. Pour le principe, le Jordanien s'aligne sur la position syrienne concernant la conférence internationale. Et là, vous avez, heureusement pour vous, droit à la pause de 5 minutes avant qu'on aborde la seconde heure.